Vous écoutez, on lit pour vous.
Ce que signifie être une femme en Afghanistan en 2025. Un texte de la rédaction paru le 7 août 2025 sur le site ONU Femmes. À quoi ressemble la vie des femmes et des filles en Afghanistan aujourd'hui? Examinons les données et découvrons ce que le monde doit faire pour soutenir les femmes afghanes. Cela fait maintenant 4 ans que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan. C'est la 2e fois que le pays est entre leurs mains. Depuis le mois d'août 2021, les autorités de facto ont adopté des dizaines de directives privant les femmes et les filles de leurs droits, qu'il s'agisse de leur éducation, du travail, de leur liberté de circulation ou de leur participation aux décisions publiques. Les filles se voient interdire l'accès à l'enseignement secondaire. Les femmes se voient interdire l'accès aux universités, à de nombreux emplois et aux espaces publics tels que les parcs, les gymnases et les clubs sportifs. Dans le même temps, la crise humanitaire ajoutée à la pauvreté rend la vie plus difficile pour tout le monde, et en particulier pour les femmes et les filles. Mais les difficultés ne se situent pas uniquement sur le plan individuel. Selon l'indice de genre 2024 d'ONU Femmes, établi pour l'Afghanistan, l'aggravation de la crise des droits des femmes accélère également le déclin du pays, ce qui accentue les inégalités dans les domaines de la santé, de l'éducation, du travail, de la sécurité et de la prise de décision. Voici ce que révèlent les données et pourquoi elles sont importantes. Les femmes afghanes peuvent-elles accéder aux soins de santé en 2025? L'accès aux soins de santé est de plus en plus difficile pour les femmes afghanes. Depuis la prise de pouvoir par les talibans, les craintes, les restrictions à la mobilité, les interdictions en matière d'éducation et la discrimination systémique empêchent les femmes et les filles d'obtenir les soins dont elles ont besoin. Un climat de peur empêche de nombreuses femmes de quitter leur foyer. Celles qui osent le faire doivent parfois parcourir des kilomètres pour se rendre dans une clinique, pour s'en voir refuser l'entrée, simplement parce qu'elles sont des femmes. Dans certaines provinces, les femmes ne peuvent pas être soignées par des médecins hommes, et il y a moins de femmes parmi le personnel soignant. Une interdiction décrétée en décembre 2024 par les autorités de facto empêche les femmes d'étudier la médecine ou la profession de sage-femme, leur fermant ainsi l'une des seules possibilités de faire carrière dans le secteur de la santé. Les conséquences sont alarmantes. La santé des femmes se détériore et elles vivent moins longtemps. Les risques de mortalité maternelle augmentent, en particulier en raison du taux élevé de grossesse chez les adolescentes, dû au mariage précoce. En outre, la plupart des femmes ne peuvent même pas prendre de décision concernant leur propre santé, celle-ci étant souvent laissée à l'appréciation des membres masculins de leur famille. Le confinement à domicile a aussi de graves effets sur leur santé mentale. L'absence d'activité physique, le manque d'accès au soutien communautaire et affectif a déclenché une véritable crise de santé mentale chez les femmes et les filles qui font état d'un niveau croissant d'anxiété, de découragement, voire de désespoir. Comme ailleurs dans le monde, les Afghanes ont également tendance à faire passer leur propre santé au second plan, en donnant la priorité à leurs enfants et à leurs familles, surtout en période de difficultés économiques. Pour pourquoi les filles ne peuvent-elles pas aller à l'école en Afghanistan? Lorsque les petites filles afghanes quittent l'école le dernier jour de classe du cycle primaire, leur scolarité obligatoire s'arrête là. Depuis septembre 2021, les talibans interdisent aux filles leur inscription dans le secondaire. Mais la crise commence bien plus tôt. En effet, près de 30 % des filles afghanes ne sont jamais scolarisées dans le primaire en raison de la pauvreté, des normes restrictives à leur encontre et des problèmes de sécurité. Les familles retirent souvent leurs filles et garçons de l'école pour contribuer aux revenus du foyer ou pour les préparer au mariage, qui est en augmentation, car les familles peinent à faire face à la crise économique. Il existe quelques possibilités d'apprentissage informel ou en ligne, mais elles ne concernent qu'une petite fraction de filles et ne remplacent pas l'enseignement à plein temps. Elles ne constituent pas non plus un parcours d'apprentissage donnant accès au secondaire ou à un emploi. Les conséquences sont désastreuses. 78 % des jeunes afghanes ne sont ni scolarisés, ni en formation, ni employés, soit près de 4 fois plus que les jeunes hommes. D'ici à 2026, les grossesses précoces devraient augmenter de 45 %. La mortalité maternelle pourrait augmenter de plus de 50 %. Le fait de priver les filles d'une éducation secondaire coûte à l'Afghanistan 2,5 % de son PIB chaque année. Mais il ne s'agit pas seulement des écoles. Il s'agit d'avenir compromis, de moyens de subsistance perdus et de communautés piégées dans la pauvreté. Les femmes afghanes ont-elles le droit d'avoir un emploi? L'Afghanistan présente actuellement l'un des écarts les plus importants entre les sexes en matière d'emploi. À peine une femme sur 4 travaille ou cherche un emploi, alors que près de 90 % des hommes travaillent. Ce n'est pas une donnée fortuite. Les talibans imposent aux femmes l'interdiction de travailler dans des secteurs qui offraient autrefois de bons débouchés, fonctions publiques, ONG nationales et internationales ou salons de beauté. Une bonne partie des femmes qui travaillent sont contraintes d'accepter des emplois précaires et mal rémunérés dans l'économie informelle. Même l'accès à l'argent est un défi. Moins de 7 % des Afghanes ont un compte bancaire ou utilisent un service de paiement mobile. Les organisations féminines de la société civile ont également subi de fortes pressions. Les talibans interdisent aux femmes de travailler dans les ONG et les écartent des postes de direction. Ils ont même forcé les ONG à remplacer le mot « femme » par le mot « homme » dans les documents de projet. Ces obligations ont conduit de nombreuses organisations de femmes à cesser leurs activités ou à les réduire considérablement, tandis que d'autres luttent pour continuer à fonctionner. Vous écoutez ce que signifie être une femme en Afghanistan en 2025. Un texte de la rédaction paru le 7 août 2025 sur le site ONU Femmes. Les femmes peuvent-elles participer à la politique en Afghanistan? Les femmes sont complètement exclues de la vie politique officielle en Afghanistan. En 2020, elles occupaient plus de 25 % des sièges au Parlement et pouvaient se porter candidates à la présidence. Aujourd'hui, elles n'occupent plus aucun poste au sein du gouvernement de fait. Les talibans sont plus proches que jamais de leur objectif, à savoir une société excluant complètement les femmes de la vie publique. Cependant, quelques-unes continuent de trouver d'autres moyens de s'engager et rencontrent de manière informelle les autorités de facto pour plaider en faveur de leurs organisations et de leur communauté. Si ces actions discrètes ont leur importance, elles ne sauraient néanmoins remplacer une représentation égalitaire. Il n'y a aucune image de femmes occupant des fonctions publiques, à la télévision ou lors d'événements officiels. Le message adressé aux femmes et aux filles est des plus clairs. Les postes de direction ne sont pas pour vous. Même dans la vie privée, l'influence des femmes s'amenuise. Les données d'ONU Femmes montrent une baisse de 60 % du nombre de femmes qui estiment pouvoir influencer les décisions au sein de leur propre foyer, le seul espace où elles sont encore autorisées à exister. Les femmes sont-elles en sécurité en Afghanistan? La réponse est simplement non. Et les risques ne cessent d'augmenter. Même s'il n'est plus possible de collecter de manière fiable et en toute sécurité des données nationales sur la violence à l'égard des femmes en Afghanistan, les chiffres disponibles brossent un tableau inquiétant. En 2018, plus d'une Afghane sur trois avait subi des violences physiques et ou sexuelles de la part de son partenaire intime au cours de l'année précédente. Depuis le retour des talibans en 2021, la violence s'est probablement aggravée. Les difficultés économiques, les restrictions imposées à l'éducation des filles, l'abrogation des lois progressistes et le démantèlement des services visant à prévenir et à lutter contre la violence ont créé des conditions propices à la prolifération incontrôlée des actes de violence fondés sur le genre. Les déplacements au quotidien sont compliqués pour les femmes et les filles, et circuler peut être dangereux pour elles. Dans de nombreuses régions du pays, les femmes doivent être accompagnées d'un parent masculin lorsqu'elles quittent leur foyer, parfois même pour de courts trajets. Les veuves ou les femmes sans parents proches de sexe masculin craignent pour leur sécurité, simplement pour aller acheter de la nourriture ou accéder aux soins de santé. Les taux de mariage d'enfants, précoces ou forcés, restent élevés et continuent d'augmenter. En 2023, près de 30 % des filles de moins de 18 ans étaient mariées et parmi elles, 10 % avaient moins de 15 ans. Dans certaines familles, confrontées à la pauvreté, marier les filles est une stratégie de survie. Les femmes peuvent-elles encore avoir une influence en Afghanistan? Les Afghanes continuent de trouver des moyens de contourner les obstacles et de résister aux contraintes de plus en plus strictes qui leur sont imposées. Malgré des restrictions presque totales, elles continuent de diriger des entreprises et de travailler en première ligne, occupant des postes de travailleuses humanitaires, de journalistes ou de dirigeantes communautaires. Elles continuent de défendre leurs droits et ceux de tous les Afghans. Comment ONU Femmes travaille-t-elle avec les femmes et les filles en Afghanistan? ONU Femmes reste présente sur le terrain dans le pays où elle répond aux besoins immédiats des femmes et des filles afghanes tout en préservant leur avenir. Voici quelques exemples du soutien apporté. Des programmes conçus par des femmes, pour des femmes, en collaboration avec plus de 200 organisations de femmes, ainsi que des dirigeantes, des défenseurs, des droits humains, des journalistes, etc. des collaborations avec les ADF pour trouver les moyens de protéger, de soutenir et d'accompagner ces organisations de femmes. Le renforcement du soutien aux femmes entrepreneuses par le biais de capitaux, de formation et d'accès au marché. L'offre de services intégrés, incluant un appui psychosocial, des services humanitaires et des activités de subsistance afin d'aider les femmes et les filles les plus marginalisées et les plus vulnérables. L'amplification de la voix des femmes afghanes au niveau des plateformes décisionnelles internationales. La documentation de l'impact sur le terrain de la crise liée aux droits des femmes. Comment la communauté internationale peut-elle soutenir les femmes en Afghanistan? ONU Femmes exhorte ses partenaires mondiaux à mettre en œuvre les actions suivantes. Allouer des financements flexibles sur le long terme. Il faut soutenir les organisations de femmes de la société civile en leur allouant des ressources durables et adaptables. Veiller à ce qu'au moins 30 % des financements accordés à l'Afghanistan appuient l'égalité des sexes. Il faut éviter les programmes qui ne répondent pas explicitement aux besoins des hommes et des femmes, des garçons et des filles, et placer les droits des femmes au centre de tous les efforts. Empêcher la normalisation de la discrimination. Il convient d'éviter les actions ou les partenariats qui pourraient involontairement contribuer à appuyer ou à normaliser les politiques discriminatoires des talibans. Intégrer les droits des femmes dans toute l'action humanitaire. Les droits humains, en particulier ceux des femmes, doivent être au cœur des interventions humanitaires et des initiatives de développement. Les femmes afghanes méritent un avenir. Malgré tout, les femmes et les filles afghanes continuent de faire preuve de force, de courage et de résilience. Mais elles ne devraient pas être seules face à tous ces défis. Le monde doit agir maintenant, non seulement pour répondre à leurs besoins urgents, mais aussi pour protéger l'avenir d'une génération. Le silence n'est pas une option. La solidarité n'est pas facultative. Soyons à l'écoute. Apportons des financements. Luttons ensemble pour toutes les femmes et les filles en Afghanistan. Venez en aide aux Afghanes. Les femmes et les filles afghanes sont confrontées à la plus grave crise mondiale en matière de droits des femmes. 4 ans après la prise du pouvoir par les talibans, des vagues successives de mesures, dont aucune n'a été levée à ce jour, les ont privées de leurs droits et de leur dignité. ONU Femmes reste sur le terrain pour répondre aux besoins urgents des Afghanes et protéger leurs droits. Mais nous ne pouvons pas y parvenir sans vous. C'était ce que signifie être une femme en Afghanistan en 2025. Un texte de la rédaction paru le 7 août 2025 sur le site ONU Femmes.
Où est le bon vieux billet en carton? Un texte de Mario Girard paru le 11 août 2025 dans la presse. Avez-vous acheté des billets de spectacle récemment, je veux dire en ligne? Eh, misère de misère! Entre ça et obtenir un permis de construction à la ville de Montréal, il n'y a pas beaucoup de différence. J'ai vécu diverses expériences au cours des dernières semaines qui me font dire, une fois de plus, que les nouvelles technologies, quand ça marche, c'est extraordinaire. Mais quand c'est compliqué, Dieu que ça empoisonne notre existence. Après avoir repéré les fauteuils, On se lance dans l'achat. Un décompte est affiché comme dans Silence on joue. Vite, il faut créer un compte. Ouf, j'en ai déjà un. Schnout, c'est quoi mon mot de passe? Je fouille dans une liasse de papier parmi les 78 que je possède. Je me résigne à le réinitialiser. J'attends le code d'authentification. Bon, c'est l'étape de la carte de crédit. Je n'aurais pas dû faire ça sur mon téléphone, les touches sont minuscules. Et le foutu chrono qui me stresse, il me reste 2 minutes 40 secondes pour conclure la transaction. Un autre code d'authentification. Bon, ça y est, c'est fait. Dans mes courriels, je reçois la confirmation de l'achat, mais pas de billet. J'appuie sur « Gérer mes billets ». Je ne peux pas imprimer mes billets. Je les transfère à mon adresse courriel. Erreur, il ne fallait pas faire ça. Cette fonction sert à envoyer un billet à un ami. Il fallait appuyer sur « Votre téléphone et votre billet ». Je décide de m'en remettre à mon adage préféré « Remets à demain ce qui t'écœure aujourd'hui ». Le jour du spectacle, n'ai toujours pas de billet. Je me rabats sur le téléphone, j'appelle. J'appelle qui, au fait? Ticketmaster, la Place des Arts, PDA, ou le Festival de Lanaudière? Un employé de la Place des Arts débloque mes billets et je peux enfin les envoyer dans mon portefeuille numérique. Surprise! Les billets n'ont pas de code-barre et je ne peux pas les enregistrer en faisant une saisie d'écran. Je crains de gâcher la sortie de groupe que j'ai organisée. Je peux-tu juste avoir mes cristis de billets, s'il vous plaît? Je tiens à préciser que je ne suis pas ce qu'on appelle un technoïte. Imaginez donc ceux qui le sont ou ceux qui n'ont pas de téléphone intelligent. En plus de faire face à des prix exorbitants et à l'infâme système de tarification dynamique qui fait que le prix d'un billet peut changer 6 fois dans une journée, voilà que le chemin pour parvenir à un moment de plaisir est devenu un parcours du combattant. Et pourquoi est-ce devenu si compliqué? À qui la faute? Aux fraudeurs et aux revendeurs. C'est ce que m'a confirmé Mathieu Bergeron, vice-président numérique au groupe e-Cible et Tuxedo, créateur d'un logiciel de billetterie présent dans environ 200 salles de spectacle au Québec. En rendant le transfert de billets plus difficile, on rend la tâche des revendeurs plus difficile. Il y a des revendeurs qui envoyaient 10, 15 ou 20 fois la même capture d'écran. C'est aussi pour nuire aux revendeurs qu'on ne peut plus imprimer les billets. Même s'il est un adepte du transfert dans le portefeuille numérique, Mathieu Bergeron croit que le document de format PDF qu'on peut imprimer demeure l'outil le plus simple pour la clientèle. Mais on s'expose à des fraudes, dit-il, en précisant que la majorité de ses clients offre encore l'option du PDF. Au Festival international de Lanaudière, où l'on peut se procurer des billets par l'intermédiaire de la Place des Arts, Ticketmaster, ou directement à la billetterie du festival, on note que l'impossibilité de faire une capture d'écran du billet ou de l'imprimer est un irritant pour certains spectateurs. Le transfert vers un portefeuille numérique se passe toutefois bien, ajoute Lisa Petraccione, directrice du marketing et des communications de l'événement. Ces barrières technologiques divisent les clientèles et peuvent être un frein pour les spectateurs. Je suis persuadé qu'il y a des billets qui ne se vendent pas à cause de ça, dit Mathieu Bergeron. Mon père n'a pas de téléphone. Technologiquement, il ne peut pas acheter de billets. Après ça, on se demande pourquoi les gens vont moins au spectacle. Il semble que les mesures de protection touchent davantage les grands centres urbains qui offrent des spectacles d'envergure. Sans faire d'agisme ou de régionalisme, on voit qu'en région, les méthodes traditionnelles de vente de billets sont encore très présentes, m'a dit Ève Paré, directrice générale de l'ADISC. À cet égard, j'ai soumis une série de questions à Ticketmaster, dont le système de billetterie est très répandu au Québec. Je n'ai pas reçu de réponse. Je suis allé voir un spectacle à la Place des Arts un samedi après-midi. Il y avait une imposante file de spectateurs qui patientaient devant les guichets. Venaient-ils récupérer des billets prépayés ou régler un problème technique? Christine Bérubé, directrice adjointe au marketing de la PDA, m'a répondu que le public s'acclimate bien aux changements proposés. Tant mieux. Mais un appel à tous sur des réseaux sociaux m'a permis de voir que beaucoup de gens éprouvent des difficultés au moment de se procurer des billets. La pandémie a contribué à démocratiser l'achat de billets. Au cours des 5 dernières années, une large part des consommateurs a appris à s'en remettre aux technologies. Celles-ci vont aller en grandissant. On espère qu'elles vont également se simplifier. Je garde précieusement une boîte qui contient plusieurs centaines de billets de spectacle. Ils racontent ma vie, ou du moins des épisodes exaltants et parfois plates de mon parcours de spectateur. En fouillant dans cette boîte, je peux savoir que, le 10 mars 1981, j'étais au Barrymore, à Ottawa, en train de découvrir un groupe débutant du nom de U2. Je peux découvrir que j'ai vu Nina Hagen le 28 janvier 1984 à l'Université Carleton et non pas dans un bar comme je l'ai toujours imaginé. Je réalise que, lors de mon arrivée au cégep de l'Outaouais en 1979, j'avais une soif de tout voir. Paul et Paul, Jim et Bertrand, Sean Phillips et ses 14 guitares. Aujourd'hui, le billet de spectacle est un objet abstrait. Ses codes-barres apparaissent durant 30 secondes avant de se réfugier dans notre mémoire et celle de notre téléphone intelligent. Vivement, l'ère des puces électroniques sous-cutanées pour tout le monde. C'était « Où est le bon vieux billet en carton? » un texte de Mario Girard paru le 11 août 2025 dans La Presse.